Vous écoutez IDFM, il est 11h.
Bonjour à toutes et à tous, Christophe Gravreau au micro d'IDFM Radio pour une nouvelle balade musicale. Bienvenue, je suis ravi de vous retrouver, d'être avec vous jusqu'à midi. Aujourd'hui, nous sommes très heureux d'accueillir dans notre émission Jean-François Mazelier, président de l'association Piano Master Club, pour une riche actualité. Le week-end dernier, samedi 10 juin et dimanche 11 juin, vous avez organisé la 19e masterclass, doublée d'un récital de piano, à l'auditorium de l'école de musique et de danse d'Enghien-les-Bains, avec la grande pianiste Anne Kefelec. Cet événement a connu un grand succès public, puisqu'il affichait complet, mais aussi artistique, avec un magnifique récital consacré aux compositeurs de la première école de Vienne, Haydn, Mozart et Beethoven. Mais aujourd'hui, nous recevons non pas l'organisateur de multiples événements musicaux consacrés au piano, mais c'est l'écrivain Jean-François Mazelier pour cet ouvrage « Chopin, répertoire et anecdotes » sorti il y a quelques semaines avec une préface d'un grand interprète chopinien, le pianiste Bruno Rigutto. Alors, encore un livre sur Chopin. Pourquoi, Jean-François ?
Ah, ben, bonjour à tous, d'abord. Alors, pourquoi Chopin et pourquoi commencer par Chopin ? C'est parce que ben, c'est un amour de très longue date, puisque, étant pianiste moi-même, évidemment, Chopin est de toute façon un incontournable. D'autant plus incontournable qu'il l'a composé pratiquement que pour le piano. Donc j'ai commencé par lui, mais je m'arrêterai pas à ce livre, j'en ferai d'autres. Alors je voudrais juste reprendre un petit point, c'est que vous avez évoqué le fait que j'étais écrivain, c'est trop ambitieux pour moi, parce que je crois simplement que c'est pas une biographie comme on pourrait l'imaginer, parce que des biographies, il y en a beaucoup de Chopin. Je crois que j'avais fait une requête, il existe à peu près 10 000 livres qui ont été écrits sur Chopin.
Ah oui.
Oui, et qui existent dans le monde, hein, y compris donc bien sûr des livres polonais qui n'ont pas été traduits. Bon, moi, mon idée, c'était de faire plutôt une aide à ceux qui lisent justement une biographie ou qui se posent des questions sur les dédicataires des œuvres de Chopin, qui était cette duchesse, parce qu'on retrouve un peu le wouzou du 19e siècle avec Chopin, hein. Donc qui était cette duchesse ou cette princesse ou cette baronne qui était dédicataire, il y avait beaucoup de femmes, mais aussi des hommes, et dans ce livre on trouve la réponse en général pour toutes les personnes qui veulent, avant d'aborder une pièce de Chopin, un impromptu, des nocturnes, que sais-je, savoir à qui il a été dédié, ce qui permet d'avoir déjà une approche peut-être légèrement différente pour l'interprétation ensuite de la pièce de musique. Donc c'est un livre qui s'adresse aux étudiants, aux professeurs, pianistes, mais bien sûr à tous ceux qui s'intéressent à la musique en complément des biographies habituelles.
Bruno Rigutto écrit dans sa préface « Votre livre est original et différent des nombreux livres sur Frédéric Chopin. Il est captivant par de multiples détails. » Eh bien justement, on va débuter, parce qu'il faut écouter de la musique et écouter
bien
Chopin,
sûr.
On va débuter justement avec Bruno Rigutto qui a publié un magnifique enregistrement des Nocturnes de Chopin, dont les trois Nocturnes opus 9, dédié à une certaine Camille Mock. On va parler d'elle, mais après avoir entendu Chopin et Bruno Rigutto.
Thank you.
Frédéric Chopin sur IDFM Radio, c'était le Nocturne numéro 2 de l'Opus 9 par Bruno Rigutto, l'auteur de la préface du livre de notre invité, Jean-François Mazelier. Ce livre, c'est Chopin, répertoire et anecdotes. Alors, qui était cette Camille Mock, la dédicataire de ces nocturnes, de ce nocturne en l'occurrence?
Oui. Alors, Camille Mock était une jeune femme qui était une pianiste brillantissime, puisqu'elle a souvent été comparée à Liszt. Et peu de pianistes du 19e siècle ont pu être comparés à Liszt.
Certes.
Donc c'était vraiment une excellente pianiste, excellente interprète, et elle était fiancée à Berlioz. Et Berlioz devait se marier avec elle, et sa mère, on estime que c'est certainement sa mère qui l'a raisonné pour dire, écoute, Berlioz, finalement, c'est un guitariste de formation, hein, parce que peu de gens le savent, mais petit guitariste, petit compositeur, il vaudrait mieux que tu fasses un mariage plus...
De raison.
Plus raisonné. Et donc, elle a fini par rompre, enfin, fini très rapidement d'ailleurs, parce que c'était une femme qui allait vite, elle a fini par rompre ses fiançailles avec Berlioz, pour aller se marier avec Camille Pleyel. Camille Pleyel, qui était le grand facteur de piano, ami notamment de Chopin, entre autres, et qui était lui-même d'ailleurs un excellent pianiste. Et donc, Camille Pleyel était aussi une très jolie femme, très séductrice.
Elle avait toutes les qualités.
Elle en avait beaucoup. En tout cas, comme pianiste, elle était en plus, paraît-il, agréable à regarder. Bon, moi, quand je vois les gravures de l'époque, c'est plus ou moins partagé. Mais enfin, en tout cas,
Modes changent, cher Jean-François.
Les modes changent, c'est vrai. Et donc, Chopin part avec Camille Pleyel. C'est Camille Pleyel qui le décide à venir avec lui pour faire un voyage à Londres, où il avait un représentant là-bas, où il vendait les pianos. Et donc, pour lui faire rencontrer les fabricants de pianos Broadwood, etc. Et donc il part, et Liszt, avant qu'il ne parte, il lui demande s'il pourrait lui prêter son appartement pour lui faciliter la vie, sans en dire plus. Donc Chopin accepte, bien sûr, et puis le voilà parti avec Camille Pleyel à Londres. Alors vous savez, c'est pas comme dans aujourd'hui, on fait l'aller-retour dans la journée. Il est parti plusieurs jours, je sais plus combien exactement, et quand il est revenu, il a appris par hasard que justement son appartement avait été occupé par Liszt, mais surtout aussi par Camille Pleyel, qui était venu retrouver Liszt pour avoir des relations avec lui, etc. Et ça n'avait pas du tout plu à Chopin, et ça a été la première cause de brouille entre les deux. Il y en aura d'autres par la suite, mais enfin celle-ci était retentissante. Alors pour information, je crois qu'elle s'est mariée en 1831 avec Camille Pleyel, et elle en a divorcé en 1835. Donc
c'est une femme rapide en effet.
Voilà.
Alors quelqu'un d'aussi rapide, mais cette fois-ci en tout cas pour composer, c'était Mozart, que Chopin admirait beaucoup.
Absolument, oui. Ah oui, il a d'ailleurs écrit assez jeune, à 17 ans, les variations sur le thème de Don Juan qui s'appelle « L'acide arem la mano ». Et il avait 17 ans, je crois, quand cette pièce, c'est presque un concerto, hein, avec toutes les variations. C'est composé pour piano et orchestre. Et c'est à propos de cette pièce que Schumann, quand il a vu la partition, a dit « Chapeau bas, messieurs, un génie ».
Eh bien, voilà. On va écouter quelques-unes de ces variations, non pas pour piano et orchestre, mais dans un arrangement pour piano. Elles vont être interprétées par Marek Drewnowski, qui est un excellent pianiste polonais, découvert par le grand Leonard Bernstein. Marek Drezdnovski a d'ailleurs enregistré une très belle intégrale Chopin sur le label suisse Armosica.
Thank you.
Chopin. Nous écoutions les variations sur un thème de Don Giovanni par Marek Drzewnowski, l'une des premières œuvres du catalogue de Chopin, qui fera d'ailleurs travailler nombre de ses élèves sur les sonates de Mozart. Mmh. Chopin était presque fiancé avant de quitter Varsovie avec la jeune Maria Wodzinska, mais elle en a épousé un autre. Et vous le racontez dans votre livre, Jean-François Mazelier.
Oui, oui, effectivement, mais elle avait une prédilection pour Chopin du temps de sa jeunesse. Chopin est parti de Pologne en 1829, il avait une vingtaine d'années, 1830. Il est arrivé à Paris en 1831, en étant passé par Vienne, par l'Allemagne, etc. Et c'est la seule personne, Maria Wodzinska, c'est la seule personne dont on puisse dire qu'elle a été la fiancée officielle de Chopin, parce que il y a d'autres femmes qu'il a rencontrées, qu'il a aimées d'ailleurs, mais et on pourrait évidemment citer celle à qui tout le monde pense, c'est-à-dire George Sand, mais en fait il n'y avait jamais rien eu d'officiel entre eux, pas de fiançailles et encore moins de mariage. Donc c'est lié à la famille de Maria Wodzinska, parce que Chopin paraissait je pensais à Berlioz tout à l'heure, je citais Berlioz. Bon, ben Chopin était malade, il était de santé fragile, et on peut penser que sa famille l'a raisonné pour ne pas se fiancer, aller au-delà des fiançailles avec lui. Il lui a dédié la valse de l'adieu, numéro 1, opus 69. Véritablement le point de rupture qu'il y a eu entre eux. Elle a pas eu de chance dans, elle s'est mariée ensuite, effectivement. Elle a pas eu de chance avec son mariage, puisque le mariage a été annulé en 1841. Puisqu'elle a épousé quelqu'un qui était impuissant. Voilà. Donc, le mariage a été annulé par l'Église, à ce moment-là. Voilà ce que je pourrais dire de Maria Wodzinska, mais c'était un grand amour de Chopin.
Eh bien, clair. On va le ressentir en écoutant cette valse mélancolique et nostalgique sous les doigts d'un pianiste que nous apprécions beaucoup tous les deux, c'est Tristan Pfaff, qui a d'ailleurs présenté son nouvel album à notre micro. Thank you. La valse de l'adieu de Chopin sur IDFM Radio par Tristan Pfaff. Qui dit Chopin dit Mazurka et Pologne, son pays de naissance qu'il va quitter, vous l'avez dit Jean-François, au milieu de sa vie pour ne plus jamais y revenir. Alors cette histoire de la Pologne avec l'histoire de la France, vous nous donnez de détails évidemment très clairs au début de votre ouvrage.
Oui, sur la situation historique de la Pologne. Oui, complètement, oui. J'évoque, en fait, dans chacun de mes livres, je le ferai toujours, j'évoque un contexte historique dans lequel se situe la vie du compositeur. Pour Chopin, il a passé la moitié, à peu près, un an près, il a passé la moitié de sa vie en Pologne et l'autre moitié de sa vie, en fait, à Paris. Enfin, il est allé aussi ailleurs en France, bien sûr. Il est allé aux Baléares, il est allé en Angleterre. Il y est retourné presque 6 mois en 1848. Mais grosso modo, il a passé donc la moitié de sa vie en France et la moitié de sa vie d'abord en Pologne. Donc c'est important de resituer le contexte dans lequel les choses il a pu évoluer. Et il faut savoir que quand il est arrivé à Paris en 1830, un tout petit peu avant d'arriver à Paris, il a appris la révolution donc de 1830 en Pologne avec la folle inquiétude qu'il a pu avoir sur on les appelait pas les bolcheviks encore, c'est plus tard, c'est pour le livre de Rachmaninov, mais cette révolution où les Russes ont écrasé la résistance polonaise à Varsovie où ses parents et ses sœurs habitaient, et il a été évidemment terriblement inquiet parce que on imagine bien que la lenteur de l'époque du courrier, par exemple, un courrier mettait 3 semaines avant en partant de Varsovie pour arriver à Paris ou l'inverse. Donc, pendant toute cette période-là, plus que ça même, il était inquiet, il n'avait pas de nouvelles et il ne savait pas ce qui était advenu de sa famille. Donc il est arrivé à Paris dans un contexte extrêmement difficile pour lui. Et par ailleurs, Paris n'était qu'une étape, il était censé partir à Londres. Et donc, comme il ne pouvait pas avoir, il n'avait pas un passeport qui lui permettait d'aller à Londres directement, il est repassé par Paris, justement pour pouvoir se faire un nouveau passeport pour aller en Angleterre, et bien lui en a pris puisqu'il y est resté jusqu'à la fin de ses jours en 1849.
Alors il y a de très nombreuses interprétations magnifiques des mazurkas. J'ai choisi de vous faire entendre Vladimir Horowitz dans la fameuse mazurka opus 17 numéro 4 qui exprime toute la détresse de Chopin devant le martyre de ses compatriotes. C'était la Mazurka opus 17 numéro 4 de Chopin par le grand Vladimir Horowitz pour illustrer le passionnant livre de notre invité Jean-François Mazelier, Chopin, répertoire et anecdotes. Alors vous racontez une anecdote sur la comtesse Marie Dagout, la maîtresse de Liszt, une femme moderne, dédicataire des 12 études de l'opus 25 de Chopin.
Oui, alors la comtesse Marie Dagout, qui était en fait née Marie-Catherine de Sophie de Flavigny, elle devint comtesse Dagout en 1827 avec son mariage avec le comte éponyme. Et donc, en fait, elle a eu deux enfants avec lui lors de son mariage et elle rencontre Liszt 4 ans plus tard, en 1831, et elle commence à avoir une liaison avec lui 2 ans plus tard, enfin, si tant est que les dates soient tout à fait confirmées, c'est ce qui est officiellement reconnu en tout cas. Et Liszt, en 1833, lui fera quitter son mari 2 ans plus tard. Donc elle a une liaison avec lui, mais elle garde le nom de son mari.
Ah oui.
Et elle garde la rente surtout.
Ah.
Ouais. Bon, c'est une femme qui
moderne et efficace.
Moderne et efficace. Elle aura, en dehors des 2 enfants qu'elle avait eus avec le comte Dagout, elle aura 3 enfants avec Liszt, ce qui est pas rien quand même, dont Cosima,
filles,
qui épousera par la suite Hans von Bülow, qui était un grand chef d'orchestre, dont elle divorcera à son tour pour se marier avec Richard Wagner. Donc, alors, les relations que Marie Dagout pouvait avoir avec Chopin, on peut pas dire qu'elle le portait très haut dans son cœur, puisque quand elle parlait de lui, elle disait par exemple Chopin, une huître saupoudrée de sucre. Donc c'est pas très sympathique quand même.
Pas vraiment, non.
Hein, ou alors chez lui, il y a que la toux qui soit permanente.
Ouais.
Ce qui est, s'agissant de quelqu'un qui semblerait être mort de la tuberculose,
c'est pas charitable.
Très charitable. Voilà. Alors elle a fait aussi, pour la petite histoire, une carrière d'écrivaine, je devrais dire. Sous le pseudonyme de Daniel Stern. Et quand je parlais de Chopin où elle employait des qualificatifs douteux, c'était aussi un peu vrai pour Liszt, puisqu'elle partageait sa vie, mais elle le traitait de crétin.
Ah.
Donc
franchement, on n'y aurait pas pensé.
Oui, non.
On évoque Liszt.
Donc elle est, tout le monde en avait un peu pour son grade.
On va écouter un autre grand interprète de Chopin, Samson François, qui va jouer sur IDFM Radio l'étude numéro 5 en mi mineur de l'opus 25.
Thank you.
Nous écoutions l'étude numéro 5 de l'opus 25 de Chopin par Samson François, un véritable poète du piano, disparu beaucoup trop tôt à l'âge de 46 ans, qui avait remporté le premier grand prix du concours Long-Thibault après la Seconde Guerre mondiale. Vous n'auriez pas pu l'inviter à vos masterclass et récitals à l'école de musique et de danse d'Enghien-les-Bains, Jean-François Mazelier, puisqu'il nous a quittés en 1970. En revanche, vous avez invité l'an dernier un chopinien très talentueux, Jean-Marc Luisada. Et c'est lui que nous allons entendre dans un autre chef-d'œuvre de Chopin, le Scherzo numéro 2 en si bémol mineur, composé en 1837. Est-ce que vous vous rappelez ce qu'avait joué Jean-Marc Luisada dans le concert que vous aviez organisé ? N'est-ce pas, Jean-François ?
Eh bien, je voulais juste apporter une précision quand même. Certes, je n'ai pas pu inviter Samson François pour une masterclass à Enghien, bien sûr, mais en revanche, j'ai invité et nous avons eu son unique élève, donc en ligne directe, puisqu'il s'agit de Bruno Rigouteau. Bruno Rigouteau a été, lui qui fait également la préface du livre, Bruno Rigouteau a été l'unique élève de Samson François et on pourrait dire presque en droit, en tout cas en droite ligne de Samson François, comme il l'était, lui, de son côté, d'Alfred Cortot.
Voilà une très belle précision, Jean-François Mazelier. Mais en revanche, vous avez invité l'an dernier un chopinien très talentueux, Jean-Marc Luisada, et c'est lui que nous allons entendre dans un autre chef-d'œuvre de Chopin, le Scherzo numéro 2 en si bémol mineur, composé en 1837. C'était le Scherzo numéro 2 de Chopin par Jean-Marc Luisada, que nous avions d'ailleurs eu le plaisir d'accueillir à ce micro, tous les deux, l'année dernière. Venons-en, si vous le voulez bien, Jean-François, aux 24 préludes opus 28 de Chopin. En cette année 1838, Chopin et Georges Sand avaient décidé de partir en amoureux au Baléares. Et ça ne s'est pas très bien passé, je crois.
Non, c'est sûr, c'est le moins qu'on puisse dire, parce qu'au début, les premières lettres qu'il envoie à ses amis en Pologne, il décrit un paysage idyllique avec tous les arbustes en fleurs, etc. Je crois que de mémoire, ils arrivent vers le mois d'octobre, enfin, c'est encore très beau. Malheureusement, le temps, les conditions météo se gâtent très vite. Il pleut sans arrêt, le temps est très humide, comme il est malade, les gens localement le compliquent leur vie là-bas. Ils veulent pas leur louer une maison, donc ils sont obligés d'aller dans un monastère qui était Villahermosa, qui était encore plus humide, évidemment, compte tenu de la taille des pièces, encore plus humide que ce qu'on pourrait imaginer, ce qui était très mauvais pour lui et la condition de ses poumons. Et donc il a de la fièvre, il est malade là-bas. Jean-Yves Clément a écrit un très beau livre d'ailleurs sur le retour de Valdemosa, mais où il décrit très bien le calvaire qu'il a eu, parce qu'il est resté là-bas. Il a dû attendre des mois avant que son piano Pleyel soit livré au Baléares. Je crois qu'il l'a eu 3 semaines avant de partir, finalement. Mais il a quand même composé l'intégralité des préludes.
Incroyable, parce que ce sont des chefs-d'œuvre absolus.
Absolument, et certains durant moins d'une minute, d'autres au contraire racontant une histoire beaucoup plus longue. Et donc il a eu un piano à sa disposition, en fait, que finalement 3 semaines ou 4 semaines, je crois, avant leur départ. Donc il a tout composé, bien sûr, sans piano.
C'est ça le génie.
Ah oui, ouais, ouais. Là on peut être que admiratif.
Nous allons écouter l'un des préludes les plus connus par un immense pianiste, Claudio Arrau. Ce sera le 4e en mi mineur. C'était le prélude en mi mineur de Chopin par Claudio Arrau. Un autre immense pianiste, l'un des plus grands interprètes de Chopin, c'est Arthur Rubinstein qui a enchanté les amateurs pendant plus d'un demi-siècle. Avez-vous eu l'occasion, Jean-François, de l'écouter en concert, puisqu'il s'est produit alors qu'il était très âgé et presque aveugle d'ailleurs?
Oui. Non, malheureusement non. J'ai pas pu l'écouter en concert, mais comme tout le monde, évidemment, maintenant avec Internet, on peut quand même accéder à énormément d'enregistrements qu'il a fait, parce qu'il a eu une vie très longue. Il faut considérer une chose quand même, c'est que Horowitz reconnaissait quand même que c'était un immense pianiste. Ce qui est pas si simple de la part d'Horowitz, parce que il avait quand même à juste raison, hein, une assez haute opinion de lui-même.
On peut le dire.
Et peu de mots tendres vis-à-vis des autres pianistes. Et non, c'était vraiment un chopinien qui n'a aucun lien de parenté d'ailleurs avec d'autres Rubinstein, le fondateur du conservatoire de Saint-Pétersbourg, et son frère, le fondateur du conservatoire de New York, de Moscou, donc Antoine et Nicolas, voilà.
Chopin a composé la fameuse polonaise héroïque en la bémol majeur en 1842. Elle est dédiée à Auguste Léo, qui était un banquier qui a beaucoup aidé Chopin dans ses négociations avec les éditeurs et lui a même prêté de l'argent.
Oui, complètement. Oui, oui, il lui a prêté de l'argent. Ce sont des choses pour lesquelles on a des traces. Il est probable qu'il ait fait même davantage pour lui, qu'il l'ait aidé sans lui prêter pour autant de l'argent, qu'il l'ait aidé à trouver des logements, parce que Chopin avait quand même la bougeotte, hein. Il a vécu 19 ans à Paris et il a changé quand même, je crois, 9 fois d'endroit de résidence.
Il n'était pas le seul. Beethoven à Vienne, c'est beaucoup aussi. Oui, a beaucoup bougé.
Oui. Donc je pense que Auguste Léo l'a certainement aidé aussi, peut-être en tant que caution, si ça existait à ce moment-là, ou en tout cas pour l'aider à trouver des logements. Et donc cette polonaise qui est quand même la marque de fabrique de Chopin, hein, c'est, s'il y a une pièce de Chopin qu'on connaît, c'est celle-ci, l'étude révolutionnaire numéro 12 opus 10. Bon, c'est vraiment, puis des valses, et là, celle-ci, il lui a fait un cadeau extraordinaire de lui dédier cela, parce qu'il pouvait pas imaginer que aujourd'hui on la passerait à la radio en 2023. Hein.
Et pourtant, on va l'écouter, cette polonaise héroïque sous les doigts d'Arthur Rubinstein. Arthur Rubinstein interprétait sur IDFM Radio la polonaise héroïque de Chopin. Presque toute l'œuvre de Chopin est consacrée au piano solo. Mais son catalogue comporte aussi, on l'a vu, les variations sur un thème de Mozart pour piano et orchestre, ses deux concertos pour piano et orchestre, et quelques mélodies. Et vers la fin de sa vie, il y a cette sonate pour violoncelle et piano, composée pour son ami le violoncelliste Auguste Franchaume.
Alors, j'ai jamais su si on disait Franchaume. Moi, je dis Franchaume, mais j'ai tellement entendu dire Franchaume que je donne ma langue au chat. En tout cas, effectivement, c'est un ami dès l'arrivée de Chopin à Paris, dès 1830. Il devient un de ses meilleurs amis. Il sera un des quatre à tenir le cordon du poil pour ses obsèques, durant ses obsèques. Et cette sonate est absolument magnifique. Elle est merveilleuse. Mais dans les œuvres qu'il a composées pour piano et orchestre, vous avez oublié vous le savez.
L'Andante spianato, et non, c'est pas ça.
Non, alors non, oui, il y a l'Andante spianato et Grande Polonaise, oui. Mais il y a ce qui était considéré comme le début de son concerto numéro 3. Et en fait, il n'a eu le temps de composer que le premier mouvement, et ça s'appelle l'Allegro de concert. Voilà. Et donc, qui est une pièce magnifique et qui est restée en l'état. Bon, beaucoup de gens pensent que c'était le premier mouvement de son concerto numéro 3 qu'il n'a pas eu le temps d'écrire. Parce qu'il est mort jeune, hein. Je rappelle, il est mort à 39 ans. Et donc, est très affaibli sur les deux dernières années de sa vie.
Dieu sait ce qu'il aurait pu composer s'il avait vécu normalement, disons.
Ouais.
Alors, on a choisi pour cette sonate pour violoncelle et piano deux interprètes exceptionnels, Mstislav Rostropovitch et Martha Argerich, dans le troisième mouvement, un largo très romantique.
Super.
Frédéric Chopin, largo de la sonate pour violoncelle et piano par Mstislav Rostropovitch et Martha Argerich. Jean-François Mazelier, nous arrivons déjà à la fin de notre émission. Je rappelle à nos auditeurs que vous êtes l'auteur d'un livre passionnant, Chopin, répertoire et anecdotes, avec de nombreux portraits d'amis et de musiciens ayant entouré la vie de Chopin, la reproduction de lettres manuscrites, des annexes très pratiques comportant une liste chronologique des œuvres avec les numéros d'opus, les dédicataires et aussi les différentes adresses de Chopin à Paris, quelques mots sur ses funérailles et des questions que vous vous posez encore, Jean-François, 174 ans après la mort de Chopin et malgré la lecture d'une quarantaine d'ouvrages. Par exemple, Jean-François.
Ben écoutez, les exemples sont assez nombreux, ce qui est surprenant quand même. Enfin, moi, je suis toujours surpris de peut-être le plus énorme, concerne sa maladie. Tout le monde est à peu près d'accord aujourd'hui, apparaît avoir évoqué des tas d'autres causes de sa mort. Tout le monde est aujourd'hui à peu près d'accord sur le fait qu'il est mort de tuberculose. Ou d'une complication de la tuberculose. Mais après avoir eu un épisode où on a pensé que peut-être il était atteint de mucoviscidose, etc. Bon, finalement, après analyse, il semblerait que ça soit la tuberculose. Et moi, la question que je me pose, c'est comment se fait-il qu'il a donné des cours de piano pendant une vingtaine d'années, alors qu'il était atteint de cette tuberculose, si c'était bien la tuberculose, que c'est une maladie, on le sait, extrêmement contagieuse. Comment se fait-il que pratiquement, à part un ami d'enfance qui est mort de la tuberculose pendant qu'il était à Paris, aucun de ses élèves, il en a eu de très nombreux, aucun de ses élèves, ni George Sand, qui le côtoyait quand même pendant plusieurs années tous les jours, personne n'est mort de tuberculose. Moi, c'est quelque chose que je ne...
Oui, c'est assez stupéfiant, d'ailleurs.
Ben oui, il y a des tas de choses comme ça qui sont... que je trouve bizarres. Et je vais en citer une autre très rapidement. C'est le classement par opus de ses œuvres. C'est complètement erratique. On passe de l'opus... Dans la chronologie, on passe de l'opus 1 à l'opus 68. Ou je ne sais plus combien. Enfin, c'est fait vraiment n'importe comment. Et on se demande ce qui a pu y avoir dans la tête de la personne.
Ah oui, c'est pas du tout logique.
Ben non, pas du tout. Pas du tout. Donc, surtout, que ça ait été mal fait, c'est une chose, mais que ça n'ait pas été réajusté depuis...
Et surtout ça.
170 ans, moi, c'est quelque chose que j'ai du mal à comprendre, voilà. Mais il y a plein d'autres petites choses comme ça que j'évoque à la fin du livre, parce que, ça fait partie de ma réflexion personnelle sur sa vie.
Eh bien, on va laisser à nos auditeurs le soin de découvrir votre livre. Alors, comment peut-on se le procurer, Jean-François Mazelier ?
Eh bien, si on a le droit de faire de la publicité. Non, je blague, mais on peut se le procurer sur Amazon. On tape Mazelier dans le moteur de recherche et vous trouverez les livres. Alors, il existe en version française, en version anglaise pour les anglophones et puis en version polonaise également.
Ah oui.
Voilà, qui est vous pouvez vous le procurer sans problème depuis la France. Vous le trouverez facilement.
C'est très rapide sur Amazon, on l'a en 48 heures.
Oui, c'est ça. 48 heures à 72 heures. Mmh. Ouais, ouais.
Mais c'est parfait. Mais écoutez, merci beaucoup Jean-François Mazelier. Bonne journée.
Merci à vous.
Et revenez nous voir pour votre prochain événement ou votre prochain ouvrage, puisque vous nous avez parlé de ce livre sur Serge Rachmaninov, dont on fête cette année le 150e anniversaire.
Oui, c'est le prochain.
Eh bien, à très vite, Jean-François. Et quant à moi, Christophe Gravreau, je donne rendez-vous à nos auditeurs très vite pour une nouvelle balade musicale. Merci à Christophe, à la technique. Et bien sûr, restez à l'écoute des programmes d'IDFM Radio avec maintenant les informations.